Matadi sur Fondu.
Plus on parle des viols, de violences sexuelles, de viols, surtout faites à la femme. Chaque jour qui passe, plusieurs femmes se font violer en République démocratique du Congo. Et très souvent, ces actes sont commis avec menace. C'est le cas, par exemple, de deux hommes en uniforme du Bas-Congo qui ont été condamnés à de lourdes peines. Il faut savoir que le verdict est tombé la semaine dernière à Lukala, au tribunal militaire de garnison des Cataractes et de la Lukaya. Bon nombre de gens aujourd'hui s'interrogent parce qu'on aimerait savoir ce que prévoit la loi sur le viol, et surtout le viol avec menace. Nous en parlons dans cette chronique qui est consacrée à l'ONG Avocats sans frontières. Et nous avons dans ce studio Maître Dominique Kamwando, qui est déjà là avec nous. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour Nicole.
On aura le temps de nous pencher sur cette question avec vous dans un instant. On va d'abord donner la parole à Dani Kinda Nzita, qui est en ligne. Dani, vous êtes avec nous, hein?
Oui, Nicole, je suis en ligne.
Alors, pouvez-vous nous décrire, pour commencer, l'ambiance qui a régné lors de l'audience sereine organisée mardi dernier par le tribunal militaire des Cataractes et de la Lukaya, qui a mis en cause deux violeurs?
Ah oui, Nicole, l'ambiance était totale mardi dernier à Lukala. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à cette audience publique qui siégeait en matière répressive au premier degré. Les deux prévenus ont été accusés de viol avec menace. Selon le major José Diemombouya, qui est le président du tribunal militaire de garnison des Cataractes et de la Lukaya, c'est dans le cadre de sensibilisation contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mineures que cette audience a été organisée, suivant le major José Diemombouya.
En matière de viol, lorsque les tribunaux condamnent les infracteurs des viols, et les victimes sont très souvent prises en charge par des ONG qui s'occupent des violences sexuelles qui sont faites aux femmes et plus particulièrement aux jeunes filles mineures dans les cadres psychosociaux. On les encadre, on les apporte des soins, on les assiste avec des vivres et tout.
Mais et pour leur sécurité en tant que telle, est-ce que ça fait quelque chose? Pour les protéger, parce que demain, en supposant que le coupable sorte de prison, il peut vouloir se venger, par exemple.
Non, ils seront toujours protégés. Comptez sur l'État. Et nous-mêmes, nous sommes les protecteurs de la
loi. Et concrètement, les mesures, est-ce qu'il y en a?
Les mesures, il y en a. Parce que le monsieur qui a été condamné, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se retrouver en liberté. Nous serons à l'OIG. C'est pour réprimer. Nous sommes là pour la répression. Généralement, les infractions des viols sont commises par les hommes en uniforme. Nous serons à l'OIG pour dire le droit.
Les infractions de viol sont commises dans bien des cas par des hommes en uniforme. Hein. Vous savez tous, raison pour laquelle aujourd'hui on essaye de trouver des solutions pour éviter que ce genre de cas ne se répète. Il y a des condamnations. On aura l'occasion de revenir sur cette question avec Maître Dominique Amoindou, mais pour l'instant, Dani, nous savons que le tribunal militaire de garnison des Cataractes de la Lukaya a statué sur deux cas au total. Alors, quelle peine a-t-on infligée à l'un comme à l'autre?
Ah oui, Nicole, le policier qui a violé une fille de 14 ans et demi a mérité la peine de 18 ans de servitude pénale avec paiement de 10 000 dollars américains à titre de dommages et intérêts et le renvoi de la police nationale congolaise. Tandis que le lieutenant de la garde républicaine, qui lui aussi a pris de force une fille de 14 ans, a écopé la sanction de 10 ans de servitude pénale avec paiement de 2 000 dollars américains et le renvoi de FRDC.
Pouvons-nous connaître la gravité de l'acte commis par ces inciviques pour mériter de telles peines?
Oui, les deux prévenus ont violé avec menace deux filles mineures de 14 ans, acte condamné par la loi en son article 170. C'est donc pour donner une leçon aux autres que le tribunal militaire de garnison a préféré les juger en public.
18 ans de servitude pénale pour le premier et 10 ans de servitude pénale pour le deuxième. La population s'interroge, est-ce que ces gens réellement vont rester en prison? Parce que dans bien des cas, nous apprenons que ces violeurs se sont échappés, ou bien ils ont disparu d'une certaine manière. on aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions avec Maître Dominique. Mais comment les deux prévenus étaient-ils déférés en justice d'autant plus que, pour la plupart des cas, des violences sexuelles, les gens préfèrent garder leur mutisme. Alors, est-ce que, pour ces deux cas, les victimes ont dénoncé les faits à la justice?
Oui, la poursuite de ces deux cas est consécutive à la plainte formulée par la maman de l'une des filles victimes. Cette dernière s'est d'ailleurs dite satisfaite de la manière dont le verdict a été rendu. Écoutons la maman de l'une des victimes.
Oui, cette maman a eu le courage de dénoncer cet acte au niveau de la justice. Nous savons que Dani, bon nombre de parents, lorsque leurs enfants sont violés, leurs jeunes filles, ils préfèrent s'entendre à l'amiable que d'aller porter plainte au niveau de la justice. Alors, quelle est la réaction des avocats des deux victimes après audience, surtout que les deux condamnés doivent payer comme amende 10 000 dollars américains et 2 000 dollars américains. Quelle est la réaction?
Oui, Nicole, l'un des avocats de la partie plaignante s'est dit satisfait de la manière dont on a rendu le jugement. Surtout que cette audience était publique. Selon lui, cela va décourager ceux qui tenteront encore poser de tels actes. Suivons les défenseurs de la partie plaignante.
Oui, nous pouvons qu'être satisfaits, d'autant plus que nous sommes la partie civile, c'est-à-dire que c'est nous qui avons subi l'acte de violence sexuelle. Et lorsque la justice vient de rétablir les faits tels qu'ils s'étaient déroulés, et donc les condamnations viennent de tomber, le dommage et intérêt vient d'être alloué à la victime, et donc nous ne pouvons qu'être satisfaits, d'autant plus que même si c'est vrai, c'est pas l'argent qui va devoir combler tous les préjudices que nous avons subis, mais cependant, la condamnation aux différentes peines qui ont été prononcées et aussi l'allocation de dommages et intérêts en faveur de la victime que nous sommes ne peuvent que nous arranger. Et aussi, ce qui est important à souligner, c'est le fait que les procès ayant été tenus sur une place publique, où il y a eu une très grande assistance, les peines prononcées et même exécutées en public, cela ne va pas manquer un effet dissuasif dans le chef du public de l'assistance qui a été très nombreux dans cet endroit. Et aussi, cela découragerait des éventuels violeurs qui seraient eux-mêmes rendus témoins de ce qui vient d'être fait en ce lieu. Et par rapport à nous, victimes de l'infraction, en tout cas, nous sommes satisfaits, même si le jugement prononcé ne va pas effacer toutes les traces de ce que nous avons subi comme acte odieux de la part de forces de l'ordre.
Nous rappelons que ces deux personnes-là, qui ont été condamnées pour avoir violé deux jeunes filles, étaient en fait des hommes en uniforme et ils évoluent au Bas-Congo. Alors, pour évoluer sur la question d'Annie Kinda, nous allons connaître un peu les impressions des autorités politico-administratives de la place à cette audience qu'on croit être peut-être la première du genre dans cette cité.
Oui, Nicole, pour l'autre Mafani qui s'achève de la cité de Lukala, cette audience est une véritable sensibilisation de la population sur les violences sexuelles faites à la femme. Cela encourage la population à dénoncer tout cas de violences sexuelles conformément à la loi. Aussi, une façon d'encourager la justice militaire à bien faire son travail. Surtout que dans les statistiques, ce sont les hommes en uniforme qui sont accusés de ces actes. Écoutons encore une fois le chef de la cité de Lukala.
Oui, vraiment, moi je suis très content par le fait que c'est que le tribunal militaire vient de faire juger moi et celle-là. C'est une façon de renforcer la sensibilisation de la population en matière de violences sexuelles. Donc la population a compris par là que ce ne sont pas des actes
un but pénétrable, mais donc, tout cas doit être bénéficié. Et la population a compris que l'État, la justice fait son travail et qu'on doit punir tous les actes.
Voilà, aujourd'hui on punit tous les actes, même ceux qui se ceux qui pensaient qu'ils étaient intouchables. Ils ont été punis et condamnés, hein, 10 ans pour le premier et 18 ans pour le deuxième. Dominique, nous allons pas faire le suivi avec Maître Dominique Amoindo. Nous vous remercions beaucoup, hein, de nous avoir présenté ce dossier. À la prochaine.
À la prochaine, Nicole.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une religion.
Maître Dominique Amoindo, nous sommes avec vous pour donner d'autres détails. Hein. Vous êtes mieux placé que nous pour éclairer davantage la lanterne de nos auditeurs. Aujourd'hui, nous apprenons que deux hommes en uniforme du Bas-Congo ont été condamnés à de lourdes peines. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, Maître Dominique Amoindo.
Effectivement, ça n'arrive pas tous les jours, mais le rôle de la justice est d'assurer la sécurité juridique des populations et de pouvoir dire les droits lorsque l'ordre public est troublé. Et c'est ce que nous venons de suivre tout à l'heure, la situation qui s'est passée au Bas-Congo.
Nous rappelons que pour ces deux cas, ces deux personnes en uniforme ont violé deux jeunes filles. Pour le premier, on l'a condamné à 18 ans de servitude pénale avec un paiement de 10 000 dollars américains, tandis que pour le deuxième, il a 10 ans de servitude pénale avec 2 000 dollars américains à payer. Dans bien des cas, lorsqu'on apprend qu'il y a condamnation, maître, tout le monde est content, mais par après, les conséquences de cette condamnation, les fonds qu'il faudrait débourser pour indemniser les victimes ne se font pas. Ne viennent pas tout de suite, Maître Dominique Amoindo.
Effectivement, le problème de l'exécution des condamnations se pose à deux niveaux. Au premier niveau, nous avons les condamnations pénales, c'est-à-dire les peines de prison et les peines d'amende. Dans ces cas-là, pour les cas de peines de prison, le plus souvent pour des peines des infractions graves comme des violences sexuelles et autres, les personnes poursuivies se trouvent dans la plupart des cas déjà en détention préventive, c'est-à-dire en état d'arrestation. Et lorsque les jugements tombent, ces jugements les trouvent dans cet état et ils doivent continuer maintenant à purger leur peine. Bien sûr qu'on dénonce ça et là des cas d'évasion à cause de la précarité des conditions de sécurité dans nos prisons. Mais au-delà de cela, il y a l'aspect civil, c'est-à-dire les condamnations à la réparation du préjudice subi, c'est-à-dire les dommages et intérêts. Il se pose effectivement des problèmes à ce niveau-là en ce qui concerne la situation matérielle des personnes condamnées.
C'est ça, dans la plupart des cas, dans ils vont trouver cet argent, maître, ne rêvons pas. Hein, eux, ils vont trouver ces 10 000 dollars à payer pour la première victime et 2 000 dollars américains pour la deuxième. Où est-ce qu'ils vont les trouver, maître Dominique?
Effectivement, dans la plupart des cas, les personnes condamnées n'ont pas des biens pouvant garantir la réparation du préjudice subi. Et c'est ce qu'on arrive, et c'est ce qu'on y arrive dans la plupart des cas. Mais pour les peu de gains qu'ils ont, le peu de gains qu'ils ont dans leur patrimoine, la justice peut saisir ces biens, les vendre et désintéresser les
fiscaux
partiellement.
S'ils n'ont rien,
le jugement est là, devenu irrévocable, il pourra attendre que ces personnes arrivent à une certaine situation. On pourra, même quelques temps plus tard, même des années plus tard, pouvoir désintéresser la victime. Mais la difficulté est que dans les cas précis, lorsque les personnes sont condamnées à de lourdes peines de prison, il n'y a même pas moyen d'espérer qu'ils peuvent avoir des activités lucratives qui peuvent leur permettre
d'avoir des
moyens pour que les personnes condamnées à des réparations puissent rentrer dans leurs droits.
Maître Dominique, un bon nombre de gens qui nous suivent aujourd'hui, parce que ce n'est pas tous les jours que ça arrive qu'on condamne des hommes en uniforme. Dans bien des cas, on les accuse de violeurs, dans bien des cas.
Effectivement.
On lance contre des hommes en uniforme, et aujourd'hui, bon, il y en a deux qui sont tombés dans les filets de la justice. Ils doivent payer leurs amendes de 10 000 dollars et 2 000 dollars. Mais on peut croire aujourd'hui qu'ils ne vont pas le faire. On peut le croire. Et s'ils ne le font pas, eh ben, tant pis.
Bon, en principe, ils ne peuvent pas le faire volontairement et de bonne foi, mais en principe, la justice a les moyens de les contraindre par la saisie des biens et par d'autres voies d'exécution forcée. Si ils ont dans leur patrimoine des biens pouvant garantir cette réparation.
Il y a un auditeur qui réagit en fonction de cela. Ce monsieur nous dit, puisqu'ils font partie, ils sont des hommes en uniforme, donc ils font partie de la garnison militaire. Est-ce que l'État congolais ne peut pas payer à leur place?
En principe, lorsque les infractions ont été commises par les hommes en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, à ce moment-là, l'État congolais est civilement responsable. L'État congolais peut aussi être cité dans ces procès et être condamné comme civilement responsable pour des condamnations civiles.
Pendant qu'ils étaient en service.
Bon, ça, c'est ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas les pièces du dossier. S'ils étaient en service, je me demande pourquoi on n'a pas cité l'État congolais comme civilement responsable. Ce sont des situations que nous avons connues dans le cadre, par exemple, des viols massifs des Songomboyo en Équateur, où des policiers étaient des militaires étaient au cours d'une mission, avaient procédé à des viols massifs. L'État congolais a été cité comme civilement responsable et a été condamné à la réparation du préjudice. Bien sûr que les personnes condamnées ne sont pas encore entrées dans leurs droits, mais il y a déjà des actions menées par des avocats qui étaient, par exemple, dans ce procès diligenté ou amené grâce à l'action d'avocats sans frontières, qui sont en pourparlers avec le gouvernement provincial du Bas-Congo pour que l'État puisse réellement payer les réparations civiles auxquelles il a été condamné.
081-809-6394 pour vous qui souhaitez réagir dans cette émission.
Oui, et Maître Dominique, à voir ce que vous dites, justement, on peut conclure que le tribunal de la garnison de Cataraque et Lukaya avait siégé en matière répressive, parce que là, c'est le cas de le dire.
Effectivement, il s'agit de la matière respective, c'est-à-dire nous sommes en matière pénale parce qu'il y a eu trouble de l'ordre public.
Eh bien, alors, disons, d'aucuns aimeraient un peu faire la différence entre viol simple et viol avec menace. Entre les deux infractions, quelle est l'infraction qui, disons, mérite un degré de sanction plus élevé? Et pourquoi?
Le viol est une infraction consacrée par l'article 170 du Code pénal congolais, livre 2. Et le viol est une infraction qui est punie en principe de 5 à 20 ans de prison. Mais lorsqu'il y a violence et menace, la violence n'est pas un nouvel élément du viol, mais la violence ou la menace est une circonstance aggravante. Et dans ces cas-là, la loi exige que le minimum qui est fixé à 5 ans soit placé à 10 ans, soit placé au double du minimum de 5 ans, c'est-à-dire à cause de la circonstance aggravante, les juges doivent prononcer une peine plus sévère.
Ben est-ce que, à ce niveau, du fait que le tribunal a siégé en matière répressive, est-ce que les condamnés peuvent aussi négocier leur peine à purger?
On ne peut pas négocier la peine dès lors qu'elle est déjà prononcée par le tribunal, mais ce que la loi prévoit le double degré de juridiction, c'est-à-dire que les personnes condamnées, dès lors qu'elles ne sont pas contentes ou satisfaites de la décision rendue, ces personnes peuvent aller en appel pour que leur cause soit réexaminée une seconde fois. À ce moment-là, les juges d'appel pourra apprécier s'il y a lieu de maintenir la peine ou de la réduire selon les éléments du dossier.
Même lorsqu'il s'agit d'un viol.
Oui, le double degré de juridiction est un droit reconnu à toute personne, quelle que soit l'infraction commise. On peut se pourvoir à l'appel pour demander qu'un deuxième examen du dossier soit fait par la juridiction supérieure.
Oui, mais là où le bas blesse, c'est que ce sont des hommes en uniforme, et dans bien des cas, les juridictions habilitées à traiter des cas, disons, des hommes en uniforme, c'est des garnisons militaires, des auditorats, mais la cour d'appel entrera dans quel cadre dans ce niveau?
Non, il y a l'ordre judiciaire militaire qui est organisé. L'auditorat militaire ou les auditorats militaires jouent le rôle des parquets dans la justice civile. Et il y a à côté des auditorats militaires des tribunaux et des cours militaires. Ce sont les tribunaux et les cours militaires qui statuent sur les dossiers et prononcent ou décident sur les peines à appliquer. Dans le cas d'espèce, l'affaire a été traitée par les tribunaux militaires de la garnison de la Lukaya, si on l'a bien suivi, ou des Cataractes, si on l'a bien suivi. À ce moment-là, les juges d'appel, c'est la cour militaire du Bas-Congo qui est basé à Matadi, qui est la juridiction supérieure qui est habilitée à statuer sur l'appel.
Alors, au cas où, disons, l'appel ne rencontre toujours pas l'assentiment de ce condamné, il peut encore prendre une autre instance.
Bon, ils peuvent encore se pourvoir en cassation, et à ce moment-là, ou à la Cour suprême, ou dans l'état des faits, il y a la haute cour militaire qui peut statuer sur des cas après les décisions rendues au niveau d'appel. Et à ce moment-là, c'est la dernière instance qui peut rendre le jugement à ce moment-là. Et puis après, la décision devient irrévocable.
Alors si la dernière instance se rend compte que voilà, le jugement a été mal rendu, disons, au niveau des tribunaux de garnison de la Lucaya, qu'est-ce qui va se passer?
En principe, au niveau de la cassation, les juges des cassations ne statuent pas sur le contenu du dossier, sur la matière comme telle. Les juges de cassation essayent d'examiner s'il y a des dispositions légales qui ont été violées. Dans ce cas-là, les juges renvoient l'affaire auprès d'une autre juridiction compétente en déterminant les règles qui doivent être appliquées et l'interprétation qui doivent être faite.
Alors, Maître Dominique, nous rappelons tout de même que c'est dans le cadre de la sensibilisation contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mineures que cette audience a été organisée. Hein. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette sensibilisation, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'audience publique.
Effectivement, plusieurs sensibilisations sont en train d'être faites au regard de l'ampleur qui prennent les violences sexuelles dans notre pays, c'est pour amener les victimes et les membres de leur famille de ne pas considérer un viol comme une honte pour pouvoir se cacher. C'est un fait qui a troublé l'ordre public, qui a violé la dignité d'une personne humaine, qui doit être portée à la justice pour que les personnes puissent être sanctionnées. Nous pensons effectivement qu'on a pu tenir cette audience en public pour que ça puisse jouer le rôle pédagogique dans le chef des populations.
Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres audiences publiques ailleurs, dans d'autres provinces.
Effectivement, on peut toujours avoir d'autres audiences publiques, sauf si le ministère public ou la victime ne demande pas de huis clos. Parce qu'en matière de viol, dans la plupart des cas, c'est la dignité, la considération d'une personne qui est blessée, qui est frustrée et tout ça. Et dans pareil cas, la loi prévoit que l'intéressé ou les ministères publics peuvent demander que les tribunaux tiennent ces audiences à huis clos. Mais si cela n'est pas le cas, on peut toujours tenir aussi des audiences publiques si les autres parties ne trouvent pas d'inconvénient.
On a comme l'impression que, disons, les nouvelles lois sur les violences sexuelles ne souffrent pas de l'inapplicabilité, hein, parce qu'on voit, par exemple, des audiences foraines qui sont organisées, disons, à travers le pays, c'est comme si les gens mettent déjà la main à la pâte.
Effectivement, des efforts considérables sont en train d'être faits pour vraiment arriver à éradiquer les phénomènes des violences sexuelles. Et pour cela, la justice s'évertue à tous égards. C'est pour cela même on a parlé de tolérance zéro pour les cas des violences sexuelles. C'est pour arriver vraiment à mettre fin à l'impunité des auteurs des violences sexuelles.
Oui, mais non. Nous retenons que c'est le tribunal militaire de garnison
De la
Lucaya qui a eu à organiser cette audience publique, hein. Mais les autres garnisons aussi vont suivre l'exemple, parce que tous les jours on apprend qu'un uniforme a violé une jeune fille de 5 ans, de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va constater ça ailleurs aussi, sur les autres garnisons.
Effectivement, ce sont des faits qui arrivent dans plusieurs garnisons, et même pas seulement devant les juridictions civiles, pas seulement devant les juridictions militaires, même devant les juridictions civiles, ce sont des cas qui arrivent fréquemment. À titre illustratif, je vais par exemple vous dire que lors des dernières audiences foraines que nous avons organisées avec les tribunaux des grandes instances des Kindu dans les territoires des Kasongo, sur près de 90 dossiers, on a rencontré 20 dossiers de violences sexuelles. Ça, c'est devant une juridiction civile, devant un tribunal de grande instance. Donc, le phénomène est en train de prendre des ampleurs considérables et les acteurs judiciaires et la population et les autorités du pays sont en train de faire des efforts pour arriver vraiment à mettre fin à l'impunité des auteurs.
Juste une précision, lorsque c'est un homme en uniforme qui a violé une jeune fille, c'est toujours un tribunal militaire?
Lorsque c'est pour toute infraction commise prise par un militaire, c'est le tribunal militaire qui est compétent ou la cour militaire selon son grade.
Mmh. Alors, Maître Dominique Lamondo, parce que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on arrive à faire une différence entre viol sous menace et viol tout court. Parce que dans les deux cas, il y a une menace. C'est pas pour rien qu'on parle d'un viol.
Et non, on parle des viols lorsque la personne n'a pas donné son consentement valable à l'acte sexuel auquel qu'elle a subi. Mmh. Mais la menace et la violence peuvent être sous-entendues. Il y a des cas où on ne fait pas recours à la violence ou à la menace, mais où on fait recours à des ruses. Par exemple, on trompe un enfant par des ruses, on lui achète un bonbon. Là, pour l'entraîner sur une certaine piste, là, il n'y a pas proprement parlé des menaces ou de la violence, mais on a utilisé la ruse ou on a profité de l'incapacité ou de la situation particulière d'une personne qui a, par exemple, certaines facultés altérées, qui n'a pas le libre arbitre sur des actes qu'elle pose, et pour pouvoir l'amener, effectivement, qui peut être mineur, même majeur, pour pouvoir l'amener à poser tel ou tel autre cas. Mmh. Mais on doit aussi savoir que nous, parce que nous parlons seulement ou le plus souvent des viols commis sur les femmes, mais la loi aujourd'hui prévoit que les viols peuvent être commis même sur les hommes. Même sur les hommes, on peut retenir
un certain viol. Jusque-là, dans bien des cas, c'est toujours des viols commis sur les femmes. Maître Dominique, il faut le reconnaître. Mais retenons quand même une chose, c'est que viol avec menace, souvent, c'est fait avec peut-être une arme. C'est fait par des hommes en uniforme, donc c'est la menace d'une arme, peut-être. C'est la raison pour laquelle on précise que c'est viol avec menace.
Bon, pas nécessairement les hommes âgés à un uniforme. La menace peut être verbale, pas nécessairement avec une arme. Quand vous dites à une personne que si vous ne cédez pas, on va vous tuer, même s'il n'y a pas une arme, c'est une menace.
Oui, certainement. Maître Dominique, on aura l'occasion d'en reparler peut-être prochainement. On rappelle encore une fois à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir au 081-890-6394 et nous écrire à l'adresse email action@radiocapi.net. Dans un instant, nous restons dans la ville de Kinshasa, puisque dans un instant, nous allons parler du numéro vert sur les violences sexuelles. Donc, nous gardons le même thème. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est un numéro vert qu'a lancé l'UNFPA. Peut-être que vous êtes tous intéressés par ce numéro. Donc, continuez vraiment à nous suivre et à réagir au 081-890-6394. Maître Dominique Amandou, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, et à la prochaine.
Merci Nicole, merci JR.